La communauté internationale acceptera-t-elle un dialogue de fond entre les animateurs des institutions et l'opposition politique? Après le 30 juin, le fossé semble de plus en plus profond entre les deux blocs, ce qui donne des raisons de s'inquiéter sur le reste du processus. La communauté internationale témoigne jusqu'ici un soutien inconditionnel à l'ordre institutionnel de la transition et n'attend pas des négociations à ce point. Mais l'opposition politique exige purement et simplement la fin de 1+4. Y a-t-il lieu qu'il y ait un vrai dialogue entre l'opposition politique et le pouvoir? Dans quel domaine particulièrement la communauté internationale pourrait-elle se montrer favorable à un dialogue? Dialogue entre Congolais reçoit ce soir Andy Spakis, ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, et Jean-Luc Bolduc, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Vous pouvez intervenir en posant vos questions par SMS au 081 051 57 78. Intervenez donc, je vous le disais, en posant vos questions par SMS au 081 051 57 78. La communauté internationale acceptera-t-elle un dialogue de fond entre les animateurs des institutions et l'opposition politique? Avant de retrouver nos invités au studio, écoutons d'abord cette analyse, ce rappel de faits importants qui nous est fait par notre confrère Claude Kianza, l'analyse qui s'appuie sur le symposium qui avait réuni le 30 au 31 mai dernier en Afrique du Sud tous les grands partis politiques. Symposium à la fin duquel ils avaient fait une recommandation particulière au SIAT, et je vous rappelle que nous avons ici au studio de Radio Okapi deux ambassadeurs qui dans le pays représentent aussi sont membres de SIAT, la Grande-Bretagne et le Canada. Retrouvons l'analyse de notre confrère Claude Kianza et on revient ici au studio pour continuer notre émission.
Du 30 au 31 mai dernier, le PPRD, le MLC, l'UDPS, le RCD et plusieurs autres partis politiques d'opposition avaient fait une recommandation qu'une concertation se tienne autour du SIAT pour désamorcer la crise entre le bloc au pouvoir et celui de l'opposition. Cette recommandation faisait suite à une rencontre tenue à la même date au cours de laquelle tous ces partis politiques avaient proposé leur schéma de sortie de crise. Un président plus un premier ministre, soit un président plus deux vice-présidents, soit encore un président plus deux vice-présidents et un premier ministre. En fait, tous ces schémas voulaient changer l'architecture institutionnelle de 1+4. La concertation autour du SIAT tendait donc à changer l'ordre institutionnel actuel, en plus de changer les animateurs. Dans son communiqué du 18 juin dernier, la position du SIAT était tranchée sur cette question. Il n'existait pas d'alternative au processus de transition actuel, tel qu'agréé par tous les signataires de l'accord global et inclusif et sanctionné par la communauté internationale, avait bien martelé ce communiqué. Le SIAT attend donc poursuivre avec le 1+4 jusqu'aux élections. Cette position ne risque-t-elle pas de renforcer le bloc au pouvoir? C'est la question que se pose bon nombre de gens.
Voilà, ça c'était les rappels de faits dans cette analyse qui nous est faite par notre confrère Claude Kianza. On rentre au studio. Jean-Pierre Bolduc, je m'a cité votre nom tout à l'heure, c'est pas Jean-Luc, c'est Jean-Pierre. Vous venez là d'entendre l'analyse qui nous est faite par notre confrère Claude Kianza. Pensez-vous vraiment qu'il est nécessaire de faire un dialogue de fond entre le pouvoir et l'opposition pour désamorcer la crise et continuer le processus?
Merci. Oui, je pense effectivement il est nécessaire d'avoir un dialogue entre Congolais, et le titre de cette émission est très approprié d'ailleurs à cet égard, et merci de m'y avoir invité, c'est un dialogue entre Congolais. Il y a longtemps que les Congolais parlent de s'entendre et d'essayer de faire progresser les choses, et il faut, dans le contexte actuel, je pense, il est nécessaire de vraiment essayer de mettre de côté la dynamique de violence ou d'appel à la violence ou d'appel à la destruction, que ce soit la destruction physique ou la destruction d'institutions, et de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire fonctionner le Congo en marche vers les élections. La dynamique à laquelle je pense qu'il faut s'atteler maintenant, c'est quelle est la dynamique qui va nous conduire aux élections et quelle est la dynamique que les uns et les autres peuvent prendre dans ce contexte-là pour inciter les gens à y participer. Et je reviendrai sur ça un petit peu plus tard dans l'émission certainement, mais c'est ce que je voudrais pouvoir, le message que je voudrais pouvoir passer à tous et chacun finalement, c'est que oui, il est nécessaire vraiment de franchir le pont, de s'asseoir, de se parler ensemble, de se parler et de voir comment on peut faire progresser les choses. Il ne s'agit pas essentiellement de dire bon, il faut détruire une formule ou une autre. La transition, elle est là. Elle a été agréée dans un contexte historique de négociations qui ont duré très longtemps pour aboutir finalement à des accords, un accord global et inclusif qui prévoyait une formule de gouvernance. Cet accord-là, je pense, on ne veut pas commencer à réouvrir les accords à ce stade-ci. On est à la 11e heure, on se dirige vers les élections, il s'agit de voir maintenant comment on y arrive et comment, effectivement, à travers ça, s'entendre.
On pose la même question à vous, Antis Paquet. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la Grande-Bretagne. Un dialogue, comme vient de dire Jean-Pierre Bolduc tout à l'heure, un dialogue, c'est bien, mais pas toucher les formules, pas changer les formules. Il faudrait faire tout avec ce qu'on a, objectif, atteindre les élections. Pensez-vous vraiment que cela rencontre, par exemple, l'attente de politiciens qui ont bien exprimé en Afrique du Sud leurs convictions et des concertations pour revoir, si c'est possible, aussi l'accord?
Alors, je suis pour le dialogue, mais je ne suis pas pour tout mettre en cause. Et ça c'est la différence. C'est fondamental. Les gens sont arrivés dans la rue le 30 juin pour protester. À mon avis, ce qu'ils avaient à protester, c'était la prolongation des élections, parce que les Congolais cherchent les élections. Ils ont soif pour les élections après 40 ans et plus. Et donc la prolongation les a mis en colère. Et ça, c'est, je l'entends bien. Mais c'est pas du tout une bonne idée de remettre tout en cause, de dire il faut dialoguer encore, il faut encore une sensité, encore 100 jours d'essayer d'arranger les choses. On a fait tout ça. Et comme mon collègue vient de dire, on est en 11e heure maintenant. Nous avons notre feuille de route, nous avons la transition, et je partage le point de vue exprimé avant. Il n'y a pas d'alternative. Et pour le peuple même qui ont protesté ce jour-là, je dis, nous avons un processus. Allez vous enregistrer, parce qu'il y a maintenant environ 1 million de Congolais qui sont fait enregistrer déjà à Kinshasa, ce qui est excellent et qui montre la volonté de la population de participer. C'est ça qui compte. Pour le dialogue, oui, si on peut arranger les choses pour que les gens qui sont hors du pouvoir, qui sont plus frustrés, peuvent trouver une accommodation avec les autres, parce qu'ils sont tous, en principe, les participants dans les élections, ça serait mieux, mais que tout le monde soit complètement certain qu'il y aura des élections et qu'ils vont participer.
Oui, vous venez là en tout cas de donner votre position par rapport au dialogue, le dialogue à quel domaine il ne faut pas toucher. Mais on a vu dans l'analyse de notre confrère Claude Kanza que en Afrique du Sud, l'UDPS, le PPRD, le RCD, le MLC et tous les grands partis qui sont dans le pays ont exprimé leur volonté de se retrouver autour du SIAT pour en fait, dialoguer pour une concertation. Mais est-ce que les SIAT pourraient-ils se montrer d'accord justement d'être justement ces médiateurs entre les différentes forces politiques congolaises actuellement en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bolduc?
Le rôle du SIAT, c'est d'accompagner la transition. La transition, elle est congolaise et elle regroupe des gens, les signataires de l'accord global et inclusif sont ceux qui, dans un premier temps, ont mis fin à cette guerre atroce qu'il y avait. Et parmi les institutions créées, il y a le SIAD. Mais il reste que la transition elle-même regroupe toute une série d'intervenants et l'accord global inclusif a été signé par un très grand nombre de partis et d'intervenants. De ces gens-là, et moi je salue le fait que les gens veuillent pouvoir ensemble s'asseoir et dire « voilà, nous voulons faire avancer et nous sommes prêts à nous asseoir à la table et à discuter ». Si le SIAD peut jouer un rôle dans ça d'accompagnateur, c'est son mandat. Certainement qu'il serait disposé à le faire. Je ne veux pas ici parler au nom de tout le SIAD parce que je ne suis pas le SIAD. Le SIAD, c'est une institution qui regroupe une quinzaine de pays ou d'organisations, les ambassadeurs de ces pays-là. Mais il reste que, oui, c'est très certainement que si le SIAD peut accompagner et si les Congolais, les leaders congolais assis à la table disent « nous, on veut pouvoir échanger sur ces questions-là et puis essayer de voir ensemble comment faire fonctionner », à ce moment-là, les formules peuvent se présenter de différentes façons. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment de s'inscrire dans la dynamique, dans le futur, non pas dans le passé, mais dans le futur, et de dire, il faut inciter ses membres, il faut inciter ses sympathisants, ses partisans à aller s'inscrire en grand nombre, et de façon à pouvoir éventuellement voter et pouvoir participer à cette action que les Congolais attendent depuis si longtemps, qui est de voter. La deuxième chose que les partis et les organisateurs doivent faire, c'est de réfléchir aussi à quelle est la plateforme politique qu'ils vont présenter. Qu'est-ce qu'ils vont présenter au peuple comme étant la voie qu'ils envisagent, ce projet de société qu'ils peuvent avoir, et donc de définir ce projet de société, de travailler ensemble à rédiger ce projet de société, à le présenter, à le faire adopter, et à convaincre les gens que c'est le meilleur projet de société. C'est vraiment dans ça qu'on s'embarque.
Je rappelle que Jean-Pierre Bolduc, qui intervient tout à l'heure, est ambassadeur du Canada en Dispacus. Maintenant, vous êtes ambassadeur de la Grande-Bretagne. Est-ce que, en tant qu'ambassadeur qui engage son pays, et aussi, je rappelle que la Grande-Bretagne, maintenant, tient la présidence de l'Union européenne, est-ce que vous pouvez être d'accord que si le SIAD puisse être médiateur d'une concertation entre les différentes forces politiques en République démocratique du Congo?
Bon, alors, comme mon collègue canadien, je ne suis pas contre en principe si nous pouvons jouer un rôle constructif dans ce contexte, mais ça ne doit pas nécessairement être le SIAD. Il y a aussi les grands animateurs africains qui s'intéressent à ce qui se passe dans ce pays. Il y avait l'intervention du président Sassou Nguesso. Il y a bien sûr le président Mbeki qui s'intéresse beaucoup, comme celui qui a géré le processus de San City. Mais oui, si nous comme SIAD, en accompagnant la transition, nous pouvons faire un rôle, c'est bon. Mais que ce soit dans le cadre de la transition que nous poursuivons jusqu'aux élections, il n'y a pas de question de remettre tout en cours, de recommencer à zéro. Ça, c'est absolument exclu.
Je vais vous faire entendre maintenant un extrait d'une émission que nous avons réalisée hier, où nous avons reçu d'une part les animateurs des institutions et d'autre part des gens qui sont restés en dehors, donc des gens de l'opposition. Je vous propose donc Mumba, qui est le secrétaire général du RCD, et Madame Eve Bazaïba, qui est le secrétaire national de l'UDPS, chargé de relations avec le SIAT et avec la MONUC, sur leur position par rapport à l'idée même du dialogue. Et on revient à vous pour continuer notre entretien.
Ce que nous proposons, nous l'avons dit, le président de la République a parlé du dialogue. Le vice-président Obewa a parlé du dialogue. Le vice-président Bemba a parlé du dialogue. Tous sont d'accord qu'il faut le dialogue. Il faut concrétiser le dialogue. Comment nous allons concrétiser le dialogue? Les conseils des ministres, le prochain, qui va évaluer la situation du 30 juin, doit inscrire à l'ordre du jour la question du dialogue. De là va sortir la forme que va prendre ce dialogue. C'est plus concret. Entre-temps, il ne faut pas qu'on traîne à faire l'enquête. On doit enquêter sur ces morts que nous avons eues et dégager les responsabilités. La police a fait un grand effort, mais c'est la police aussi qui a tué. On ne peut pas lui jeter les fleurs. La règle serait que la police, elle intervient dans les manifestations et elle ne tue personne. C'est la règle. Donc même un mort, c'est une faute. Et on doit dégager la responsabilité et obtenir que chacun répare sa faute.
Nous allons dialoguer avec le président fédéral de l'IDPS en prison, le président fédéral de l'IDPS Kisangani en prison, avec les téléphones de tous les responsables de l'IDPS en collaboration avec Celtel et Vodacom. L'ANR a tout bouché. Pour le moment, je ne sais pas recevoir et mettre. Nous allons collaborer lorsque la résidence du président fédéral de l'IDPS Mbujima est occupée par FARDC.
On arrive à
quel genre de négociations?
Voilà, ça c'était un extrait de notre émission d'hier. Vous avez entendu en tout cas la position de uns et des autres. Les uns se montrent plus ou moins favorables, mais les autres, par un mauvais traitement justement de gens au pouvoir, refusent maintenant l'idée même de dialogue. Est-ce qu'on ne voit pas là que le danger est déjà là sur la transition, Jean-Pierre Bolduc?
Le danger qu'il peut y avoir présentement, il y a plusieurs dangers, il y en aura constamment par rapport à la transition. Il y a toujours des moments où on regardera la transition, on regardera qu'est-ce qui se passe et on dira « Ah, là, il y a un danger, là, il y a un risque ». Il faut composer constamment avec une situation qui est changeante, sans perdre de vue l'objectif ultime de ceci. On vient de vivre présentement une période qui était très tendue, à l'amorce du 30 juin, les événements du 30 juin, maintenant, on est encore un peu dans toute cette dynamique et cette problématique. Alors, il faut, à travers ça, reprendre notre souffle, si on veut, et puis dire, tirons les leçons de ce qu'on a vu là. Les erreurs, il y a eu des erreurs certainement, il faut éviter qu'il y en ait pour le futur.
Mais vous venez là d'entendre Eve Bazaïba, qui est de l'UDPS, qui dit que leur téléphone s'est bouché, certains de leurs cadres arrêtés. Est-ce que cette attitude-là, justement, va favoriser le dialogue, va favoriser la concertation avec l'opposition?
Les méthodes utilisé, et c'est pour ça que je dis dans le contexte du 30 juin, il y a eu une période très tendue, et bien sûr qu'il faut essayer de remettre les choses dans l'ordre pour être capable d'avoir un dialogue qui est plus serein. Alors ça, il faut compter que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont se régulariser, se stabiliser, et j'imagine qu'à l'intérieur d'un dialogue dont on parle, il faut regarder, bien sûr, qu'est-ce qui a été fait, regarder le passé et s'inscrire aussi dans le futur et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On est à moins d'un an, on est à quelques mois de ce qui seront les premières échéances électorales. Alors, il faut vraiment mettre tous nos efforts pour essayer de faire avancer le tout.
Vous êtes ambassadeur de Canada et le Canada soutient aussi le processus en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, surtout sur les animateurs de la transition, pour qu'ils puissent adopter une attitude qui favorise le dialogue, pas continuer, par exemple, à arrêter le téléphone ou arrêter de gens, ce qui va encore élargir le fossé avec l'opposition?
Dans notre cas, à nous, effectivement, on accompagne ce processus-là de différentes façons. On accompagne par le biais d'un appui au niveau de la Commission électorale indépendante, au niveau du processus électoral lui-même en mettant des fonds de différentes façons. On l'accompagne aussi par le biais d'un appui à la fois au niveau des institutions, par exemple de la presse. On a des appuis au niveau des journalistes, on a des appuis au niveau des groupes de femmes, par exemple, vulgarisation, sensibilisation, pour essayer donc de faire comprendre un peu aux gens et de permettre aux gens de dialoguer sur ce qu'est une bonne approche par rapport aux élections. L'autre aspect, c'est vraiment, et ça j'y crois fermement, et j'en parlerai beaucoup dans les prochains mois, c'est au niveau déjà il faut commencer à penser à l'après-élection, il faut penser au rôle qu'auront les uns et les autres, le gouvernement et l'opposition. Il y aura un débat au Parlement sur la question de l'opposition, une loi sur le statut de l'opposition. Et au Canada, on a des expériences absolument uniques concernant le rôle de l'opposition. Il faut que l'opposition joue un rôle, qu'elle joue son rôle. Et déjà qu'elle commence à le faire avant les élections. Mais tout ça, ça fait partie de la réflexion qu'on aura à faire à long terme.
Avant de revenir à Anders Packers, qui est ambassadeur de Grande-Bretagne, je reviens encore sur cette question. Vous venez de dire que à l'approche du 30 juin, il y a eu, il y a eu un dérèglement, certains dérèglements qu'il faudrait remettre à l'ordre pour que le dialogue, le futur dialogue, s'il pourrait en avoir, soit serein. Alors, on a vu là certains cas concrets, certains partisans du DPS qui se plaignent que leur téléphone s'est bouché, leur communication contrôlée, certains de leurs cadres arrêtés. Maintenant, je reviens sur ma question. Qu'est-ce que, donc, pour ces cas concrets, qu'est-ce que vous pourrez faire en collaboration avec le gouvernement pour que l'ordre soit rétabli, pour qu'un futur dialogue éventuel soit serein?
Ce que je disais, c'est que à l'approche du 30 juin, il y avait une hausse de la tension et qui s'est manifestée de différentes façons. Les uns et les autres, dans ce contexte-là, ont eu l'occasion de poser des gestes et d'avoir un langage très raisonnable. Dans d'autres cas, moins. Il y a eu des gestes qui ont été posés ici et là, qui maintenant, lorsqu'on les regarde par après, on se dit, ah, peut-être que ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Alors, c'est pour ça où je dis, il faut maintenant regarder qu'est-ce qui a été fait pour éviter que se reproduisent des incidents qui ne n'aident pas à faire avancer les choses, et en même temps tirer les leçons aussi de ce qui a pu fonctionner. Reste quand même que il faut bien sûr déplorer tout ce qui est les violences, le négatif qui s'est passé dans ce contexte-là. Il faut aussi regarder qu'on avait vraiment un niveau de tension très élevé, et maintenant on est rendu au début juillet, on est passé à travers cette fameuse étape, cette fameuse date mythique, on l'a passé, maintenant on s'en va et on prend ce sprint vers les élections. On parle vraiment d'un sprint ici qui ira vers le référendum, qui ira vers les élections, et qui passe d'abord par l'enrôlement des électeurs. C'est commencé, mon collègue l'a mentionné. On a maintenant atteint à peu près 1 million d'inscrits, c'est fantastique. C'est ça qu'il faut continuer.
Antis Pacus, je vous repose la même question. Vous venez là d'entendre cet extrait de l'émission d'hier, où d'une part on voit l'URCD qui est très favorable à l'idée même du dialogue, mais l'UDPS qui se sent frustré, adopte une attitude radicale, pas de dialogue, parce qu'ils sont d'abord à leur téléphone, fermés, certains de leurs cadres arrêtés, et dans cette condition, pas du tout de dialogue. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Alors, je partage le point de vue de mon collègue. La situation récemment était très chauffée, un peu dangereuse. Dans ce contexte, bien sûr, il y avait les réactions de la part des autorités, c'est-à-dire ceux qui sont dans le gouvernement de transition, et évidemment, quelques-uns qui ont porté plainte et qui sont... qui étaient dans la rue, il y avait une réaction contre eux. Tout cela, alors, c'était à court terme, ça a à faire avec la gestion d'une situation un peu tendue. Il faut maintenant considérer au plus long terme comment on va vivre ensemble cet grand élément du sentiment de la population représenté par l'UDPS et les autres. Comment est-ce qu'ils vont joindre, et parce que je crois que il s'agit de ça, joindre le processus, remettre l'action sur la candidature de Étienne Tshisekedi pour président de la République dans les élections.
On dit, et ils se plaignent aussi du fait que leur nom ne se trouverait pas sur la liste de candidats, sur la liste des éligibles.
Oui, là, apparemment, il y a un problème technical et il faut le résoudre. Ça a à faire avec le fait qu'il y avait des autres éléments qui ont choisi le même nom, un tout petit parti, et ça c'est déjà enregistré, mais l'UDPS bien sûr est bien connu par la population comme le parti depuis bien des années de M. Tshisekedi et les gens autour de lui. Donc il faut résoudre cette question technique.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Patrick Monapunda de Kisangani pose sa question par SMS. Quelle est la position de la communauté internationale face aux multiples crises qu'a connues la RDC? On pose une série de questions et on va vous laisser le temps de répondre à la fois. De Kananga, nous avons la question de Pascal Madira par SMS. Quelle stratégie la communauté internationale va-t-elle appliquer pour sauver la RDC de la crise après le 30 juin 2005? Laurent Munga de Kisangani pose sa question aux deux ambassadeurs. Êtes-vous prêts revoir la formule 1 plus 4. Anonyme de Kinshasa, question par SMS, quelle leçon la communauté internationale tire-t-elle après le 30 juin 2005? Félix pose la question de Mbujimaï, est-ce que la communauté internationale soutient les Congolais? De Mbujimaï toujours, Kams Mouka pose sa question, la communauté internationale est à la base de la misère du peuple congolais, c'est pourquoi elle ne veut pas accorder un vrai dialogue aux politiciens congolais. Ça, c'est la première série de questions de nos auditeurs, vous venez d'attendre. La question revient sur le 1 plus 4, sur la volonté de la communauté internationale de soutenir les Congolais et sur sa volonté vraiment d'ouvrir un vrai dialogue, entendez par là, c'est qui peut mener à un changement de l'architecture institutionnelle actuellement. On commence par vous, Jean-Pierre Bolduc. Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Que pensez-vous de certaines questions posées par nos auditeurs dans cette première série de questions?
Je pense que les auditeurs... Ce qui ressort de cette première série de questions, et je remercie les gens parce que de toute évidence, les gens écoutent, sont préoccupés et veulent ce dialogue justement. Ils veulent essayer de voir un peu quelles sont les idées des uns et des autres. Et de cette première série de questions, ce qu'on retient, ce que moi je retiens, c'est qu'est-ce que la communauté internationale pense de tout ceci et qu'est-ce qu'on est prêt à faire finalement. Qu'est-ce que la communauté internationale en général en pense, c'est très large. Je répondrai pour moi.
Exactement.
Et de mon côté à moi, ce que les quelques messages que j'ai par rapport à ceci, c'est dans un premier temps, la responsabilité, elle est congolaise. Et quand quelqu'un dit qu'est-ce que la communauté internationale est prête à faire pour venir sauver cette situation ou régler cette situation ou autre. La solution, elle est d'abord ici. Elle doit se faire entre Congolais. Et c'est pour ça qu'on parle de dialogue tellement et qu'on parle tellement du besoin pour les gens de s'asseoir l'un par rapport à l'autre. Dialoguer avec les gens avec lesquels on est toujours d'accord, c'est très facile. C'est trop facile. Il faut aussi pouvoir dialoguer.
C'est au niveau de gouvernement. Cette évaluation à l'intérieur du gouvernement, c'est un dialogue avec des gens qui s'attendent.
Je pense que même au sein du gouvernement, on ne peut pas dire qu'on dialogue toujours entre gens qui s'attendent. Je pense qu'au sein du gouvernement, la formule présente est une formule qui regroupe des gens qui ne sont pas nécessairement du même avis. Alors, il y a déjà un dialogue qui se fait à l'intérieur de ça. Là, ce dont on parle, c'est d'inscrire aussi un nouvel élément à l'intérieur d'un dialogue comme celui-là et de prendre en compte aussi des gens qui sont à l'extérieur du gouvernement et de dialoguer avec les gens. Alors, le dialogue, il est d'abord congolais. Le rôle de la communauté internationale, c'est de l'accompagner. Le rôle du Canada dans ça, pour parler du Canada, c'est aussi d'accompagner ce dialogue-là et d'essayer de faire en sorte que, finalement, à terme, les Congolais puissent avoir réalisé leurs aspirations. Et les aspirations des Congolais, ce n'est pas de la violence supplémentaire, ce n'est pas des morts supplémentaires, ce n'est pas la guerre, encore une fois, c'est la possibilité d'avoir un gouvernement élu, une transition qui réussisse et vraiment d'arriver à avoir des représentants qui peuvent parler au nom de toute la population et puis de promouvoir des lois, de mettre en place des lois, de mettre en place un système qui fonctionne, de réduire la pauvreté, d'améliorer la situation scolaire, enfin, c'est tout ça. Et tout ça, ça commence par le fait que les gens doivent effectivement ramener dans la même direction. C'est une expression que j'ai utilisée aujourd'hui avec quelqu'un avec lequel je discutais justement, et de dire, nous sommes tous, et tous les Congolais dans un premier temps, et nous aussi on est là et on rame tous dans la même direction, dans le même bateau, dans la même direction. S'il y a des gens qui rament dans l'autre direction, on va nulle part. Il faut ensemble travailler de ce côté-là et maintenant aussi, bien sûr, prendre en compte les problèmes et résoudre les problèmes en cours de route.
Andy Sparkus, vous de la Grande-Bretagne, que pensez-vous justement des questions, des préoccupations posées par nos auditeurs dans cette première série de questions?
Bon, merci. Si j'ai bien compris les questions, et pour mon collègue, je remercie beaucoup les contributeurs. Tout d'abord, le 1 plus 4 et tout cela. Bon, alors, le 1 plus 4... c'est dans les accords globaux et inclusifs. Ce n'est pas que c'est le meilleur système de gouvernement du monde, évidemment pas. mais c'était...
Est-ce que vous êtes d'accord, vous pouvez être d'accord que c'est égal à zéro comme,
Ça, je ne dis pas ça, non. Parce que nous avons plus ou moins la paix dans ce pays. Il y a des incidents, bien sûr, comme on sait tout, à l'est du pays surtout, mais plus ou moins, nous avons la paix et nous n'avons pas eu la paix avant. Ça, c'est quelque chose. Donc, ça n'égale pas zéro, en tout cas. Mais le 1 plus 4, c'est pas parfait. Mais c'était la solution. Ce n'était pas une solution imposée par la communauté internationale, comme parfois disent les gens. C'était une solution trouvée par les Congolais eux-mêmes, dans un dialogue qui durait une centaine de jours. C'était difficile après une guerre civile. Et c'était la formule trouvée par les Congolais pour aller en avance. Et tout le monde, tous les animateurs, y compris ceux qui plaignent maintenant, ont signé les accords-là. Donc, on va avec cela. On ne dit pas qu'une transition est parfaite. Il n'y a pas de transition parfaite dans le monde. On est en transition à une meilleure situation. Et cette meilleure situation va commencer avec les élections libres et transparentes. Donc, pour répondre à la question comment est-ce qu'on va sortir du crise, c'est ça. Nous avons notre feuille de route, nous avons notre cadre, formule de Sun City, et on va, comme la communauté internationale, vous soutenir à aller jusqu'au bout
Avec la même formule.
Avec la formule qui est inscrite dans les accords. Parce que si on rouvre les accords, ça va être encore une centaine de jours. Comment est-ce que ça peut aider la population congolaise à avoir leurs élections à 11e heure, comme a dit mon collègue? Est-ce que nous appuyons les Congolais? Oui, nous appuyons les Congolais. Nous dépensons environ 1 milliard de dollars chaque année sur le MONUC. Nous dépensons dans les environs de 400 millions de dollars pour les élections. Ça, c'est un appui. C'est un appui fort de la part de beaucoup de bailleurs de fonds. Donc, personne ne peut pas douter que nous appuyons les Congolais. Et lorsque on dit que c'est la communauté internationale n'est pas sincère ou quelque chose, bah alors, pourquoi accuser la communauté internationale? Il y a une responsabilité aussi de tous les Congolais avec qui nous travaillons d'aller aux élections, de continuer de s'inscrire. Il y a une responsabilité pour chaque Congolais, non seulement nous, la communauté internationale, de trouver la solution et un meilleur avenir pour le pays.
Dialogue entre Congolais, la communauté internationale acceptera-t-elle un dialogue de fond entre les animateurs des institutions et l'opposition politique? Je vous rappelle que nous avons ici au studio de Radio Okapi Andy Spikers, ambassadeur de la Grande-Bretagne, et Jean-Pierre Bolduc, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Vous venez là en tout cas de parler du soutien de la communauté internationale par rapport au processus. Beaucoup d'argent sont déboursés et pour le budget et pour la MONUC. On reste encore avec vous, Andy Spikers. Vous êtes de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, pour cette année, compte contribuer pratiquement à l'ordre de plus de 70 millions de livres sterling, donc ce qui représente des centaines de millions de dollars au processus et aussi au programme TMTR. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement faire un suivi de l'utilisation de fonds que vous mettez à la disposition de gouvernement?
Bon, ce n'est pas seulement nous, bien sûr, tous les bailleurs de fonds veulent que nous ayons ici, au Congo, un élément de bonne gouvernance qui va nous donner la confiance que l'argent que nous dépensons sera bien utilisé. Nous avons bien sûr nos méthodes à nous de suivre ce qui se passe avec notre argent. Je suis certain que c'est le même pour les autres bailleurs de fonds. Mais
pour les
beaucoup plus grand que ça.
Prenons les cas concrets de paie de militaires. La communauté internationale a déploré un fait que les militaires n'étaient pas payés. Mmh. Et aujourd'hui, on est en train de voir concrètement des conséquences négatives, par exemple à Mbandaka. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement faire un suivi pour l'argent débloqué, par exemple, pour la paie de militaire, que ça soit effectivement payé?
Ok. Nous, le CIEP, nous avons remarqué ce problème. C'est un grave problème qui menace même la tenue des élections. J'ai noté que le président de la République a dit, après le séminaire gouvernemental, qu'il va créer une commission permanente pour suivre ce qui se passe avec l'argent qui est donné à la police et à l'armée. Nous sommes ici, la communauté internationale, pour soutenir cette commission ou de trouver des autres mécanismes en partenariat avec les autorités congolaises pour assurer qu'on peut résoudre ce problème de chaîne de dépenses, parce que c'est très grave, comme j'ai déjà dit.
Et c'est très grave. Jusque-là, vous venez de dire, vous venez de citer la position du président de la République, mais justement, on revient encore à votre position, parce que c'est votre argent qui est dilapidé par les animateurs en place, comme vous avez bien dénoncé, même dans le communiqué du CIAT. Qu'est-ce que vous allez faire, ou quelles directives vous allez donner pour l'utilisation de votre fonds, finalement?
Lorsqu'il s'agit du paiement des soldes pour la police et le militaire, ça, c'est pas notre argent. C'est toujours pour l'État même de payer des choses comme ça. Nous pouvons arranger toutes les choses pour 90% peut-être de toutes les dépenses nécessaires pour les élections, mais il y aura toujours ce 10% qui appartient à l'État même. Et si cet argent-là n'arrive pas pour les facilités, pour le paiement des gens, pour les administrateurs, pour la police, pour les militaires, on risque de tout perdre. Donc, il y a des responsabilités pour les Congolais. Nous sommes ici pour assister, mais la volonté doit être là.
Jean-Pierre Bolduc, vous êtes de Canada. On est en train justement de parler de l'utilisation de fonds que vous mettez à la disposition du gouvernement congolais. Vous avez déploré une mauvaise gestion de fonds mis à la disposition du gouvernement congolais. Mais qu'est-ce que vous comptez faire, du moins au niveau de votre pays, pour contrôler ne serait-ce que le fonds que vous mettez à la disposition du processus?
Il y a à l'intérieur des systèmes de communication ou des échanges et les accords que l'on signe avec les différents intervenants lorsqu'on fournit des fonds publics, il y a des formules qui sont utilisées, il y a des moyens qui sont pris et des contrôles qui sont mis en place pour assurer un suivi des fonds. C'est excessivement important, évidemment, parce que le public canadien contribue de ses sous, de ses deniers et de ses impôts pour l'aide au développement, pour la coopération. Alors, de ce côté-là, il nous faut, nous, être bons gestionnaires et gestionnaires de l'argent que le public canadien met à notre disposition pour appuyer pour l'aide au développement. Alors, dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'on continuera d'avoir des mesures de contrôle. Maintenant, ce qu'on essaie de faire au niveau de la communauté internationale, c'est d'harmoniser un peu ces contrôles-là pour éviter que ça devienne une surcharge sur les administrations ou sur les organisations avec lesquelles nous travaillons. Mais on retrouve ça partout, dans tous les pays, dans toutes les organisations. Le Congo, de ce côté-là, ne fait pas exception dans la mesure où, effectivement, il faut, pour le Congo, comme pour d'autres pays, mettre en place des mesures de contrôle sur les fonds, et ça, on le fait bilatéralement, mais aussi on le fait avec les institutions internationales et autres.
On va passer encore à une deuxième série de questions de nos auditeurs. Bukavu, Biabene pose sa question. La communauté internationale ne peut-elle pas faire pression au gouvernement pour un dialogue qui inclut les intérêts de la population? Médard Kabongo de Mbujimaï, pourquoi la communauté internationale veut toujours nous imposer des dirigeants? De Kananga, Jean-Clément Moussaou pose sa question. Jusqu'à quand le paternalisme européen doit peser sur les épaules des Congolais? Félix Bakadibamba de Kananga par SMS pose la question. Le Canada a beaucoup aidé notre pays lors de la CNS. Comment compte-t-il soutenir ce processus? Ça, c'est une question qui s'adresse à vous directement. Je pense que vous pouvez répondre un peu rapidement avant qu'on continue notre série.
Merci. Effectivement, le Canada a beaucoup appuyé. Il a appuyé tout le dialogue intercongolais depuis le début. Et nous continuons d'appuyer le Congo, d'appuyer la marche vers la démocratie présentement. Bien sûr, on parle essentiellement de ça maintenant. Et j'ai parlé un peu de l'appui qu'on donne au niveau des élections, de la marche vers les élections. Nous fournissons un appui aussi pour de sensibilisation de diverses sortes, mais aussi en plus de ceci, on a des programmes réguliers d'aide au développement. On a des programmes qui, dans le domaine de la santé, dans le domaine du microcrédit, l'appui aux institutions...
Mais ça n'arrive pas à l'intérieur du pays, c'est comme si ça s'est limité seulement à Kinshasa?
Ah non, pas du tout. En fait, les programmes d'aide humanitaire, on a des programmes pour aider à contrer la violence faite aux femmes, par exemple, dans l'est du pays avec l'UNICEF. On appuie MSF Hollande, qui est aussi dans l'est du pays. On est en train de regarder d'autres formules, d'autres pour cette région, parce qu'effectivement, le Canada était très présent dans l'est du pays il y a un certain nombre d'années. Et nous, pour nous, la République démocratique du Congo est de toute évidence un pays stratégique, un pays d'importance régionale, et on a à cœur que ça continue, que ça progresse.
On continue avec notre série. Jacques Lougoma de Katanga, si les belligérants et l'opposition n'accordent pas leur violon, quelle sera la réaction de la communauté internationale? De Katanga, Willy Bukassa pose la question, je voulais que messieurs les ambassadeurs me disent s'ils écoutent la voix du peuple par rapport au 1+4 qui a échoué. Et Kinshasa, une question anonyme, que leur excellence considère l'opinion du peuple congolais en tant que le peuple anglais ou le peuple canadien. Daniel Mutombo, Lubumbashi, pose sa question. Le CIAT peut-il se dire bon accompagnateur de la transition alors que le CIAT a soutenu l'élection par tricherie du vice-président Zaïdi Arthur Ngoma? Monsieur Aristote Kayembe de Kananga pose sa question à l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Si le CIAT soutient la formule 1+4, nous Congolais, nous disons que 1+4 égale à 0, qu'en pensez-vous? Cette question s'adresse à vous directement en dispatchers, puisque vous êtes ambassadeur de Grande-Bretagne.
Ok.
Voilà, parce qu'il a dit pourquoi. Ambassadeur de Grande-Bretagne, donc vous, en dispatchers.
Très bien. Bon, alors j'ai déjà répondu à cette question concernant le 1+4. Pour moi, l'1+4 n'est pas du tout parfait, et je crois que tous les membres de l'1+4 diraient les mêmes choses. Mais c'était une formule acceptée plus ou moins et finalement signée par tous les animateurs.
Mais la question de Daniel dit, maintenant que la population considère que c'est égal à zéro, c'était la question plutôt de Aristote, Kayembe, qui dit que maintenant que la population elle-même considère que c'est égal à zéro, que pensez-vous, qu'en pensez-vous?
Ok, bon, alors, ça vient comme plusieurs d'autres questions là, d'un sentiment d'impuissance, que je comprends bien. Mais quelle est la solution à ce sentiment d'impuissance, de frustration? C'est d'aller dans les meilleurs délais aux élections libres et transparentes qui donnent le pouvoir au peuple, que le peuple puisse choisir ceux qui vont les diriger et demander de ceux qui espèrent les diriger des bonnes habitudes et une bonne foi manifeste. C'est alors la solution à tous ces problèmes. Il y avait des gens là qui disaient que nous essayons d'imposer des divisions. Ben non, mais nous avons essayé de soutenir un processus vers la paix. C'est pour les Congolais de trouver leur division, mais nous sommes en train de les donner les élections qui est la façon de faire ça.
On arrive pratiquement à la fin de cette émission. On va vous donner les derniers mots. Rapidement, comment ça vous, Jean-Pierre Bolduc? Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Maintenant qu'on a passé le cap de 30 juin, l'objectif c'est les élections. Qu'est-ce que vous dites? Quel message vous adressez aux politiciens de l'opposition et ceux qui sont à l'intérieur des institutions pour sauver justement ce processus électoral?
Le message, dans 30 secondes, oui, le message, c'est de se situer à long terme. Ce que je dis, c'est on ne construit pas le Congo du 8 juillet 2005. On n'est pas en train de construire le Congo. Les Congolais ne sont pas en train de construire le Congo du mois de septembre, du mois de novembre, de 2006. Le Congo qui se construit maintenant, c'est celui de 2020, de 2050, c'est celui des générations futures. Il faut que les gens pensent dans ce sens.
On pose la même question à vous en dispatch. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Quel message pour l'opposition politique et pour les gens au pouvoir?
Bon, alors, nous avons dépassé le 30 juin, je regrette les morts, mais nous avons dépassé cette date, soi-disant fatidique. Ok, allons maintenant aux élections ensemble.
Voilà, c'est la fin de cette émission Dialogue entre Congolais. Vous avez été nombreux ceux qui avaient posé des questions dans cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro de Dialogue entre Congolais.